Tout à coup, un autre bruit lui fit dresser l'oreille, c'était le roulement d'une voiture qui s'approchait. Deux yeux de feu, les lanternes de l'équipage, brillèrent à l'extrémité de la rue. Puis on entendit des voix joyeuses qui parlaient toutes à la fois. Enfin, nous voici chez nous. Réveillez-vous donc, enfant. Oh, regarde, Émilie, en dormant, le petit a fourré sa tête dans ton panier. Bonsoir, Élise. Bonne nuit, maréchal. C'était ça, un baptême soigné, qu'en dites-vous? Quand vous en serez à baptiser, on se recommande. Ici, Madame Fèvre put reconnaître le gros rire du maréchal et la voix de Mademoiselle Élise qui disait « Fi donc, Monsieur Jules, pour un homme de votre âge, vous devriez avoir honte de parler ainsi. » En cet instant, l'équipage s'arrêtait précisément à la porte de Madame Fèvre et la pauvre dame, tremblante de froid et de peur, vit enfin arriver le terme de ses épreuves. Cette joyeuse compagnie, elle la connaissait, c'étaient ses voisins du premier étage, partis dès le matin pour assister à un baptême qui se célébrait dans un autre village. À leur suite, peut-être même sans être aperçue, elle allait donc pouvoir enfin rentrer. Déjà, le gros papa Jules était descendu de voiture. « As-tu la clé, Émilie ?»« Eh non, c'est moi qui la tiens dans ma main. Ces baptêmes, c'est drôle, ça vous embrouille. Mais qu'est-ce que ce chien a donc à hurler ?» Un coup de fouet, cinglé heureusement d'une main peu sévère, fit fuir le pauvre Médor qui, dégoûté du genre humain, passa dans un recoin écarté le reste de cette nuit pleine de vicissitudes. Cependant, la clé avait fini par rencontrer le trou de la serrure, grâce au hasard complaisant plutôt qu'aux manœuvres du bon papa Jules, qui, décidément, prenait la gauche pour la droite ce soir. Il ouvrit la porte toute grande, mais fit aussitôt un pas en arrière. Hé ! Il lui semblait qu'une ombre rapide avait glissé devant lui en le frôlant, pour se perdre ensuite dans l'obscurité du corridor. Hé ! Répéta-t-il tout abasourdi, vous passez bien vite, vous ! À qui parles-tu ? Demanda sa femme en s'approchant. C'est drôle, j'aurais juré que quelqu'un venait de me filer sous le nez pour entrer dans la maison. Écoute ! On n'entendait rien, aucun pas, aucun bruit suspect. J'aurais eu un petit éblouissement, pensa le brave homme. Ces baptêmes, décidément, ça vous embrouille. Cependant, au second étage, une porte s'ouvrait doucement et Madame Fèvre, enfin réintégrée dans son domicile, poussait un grand soupir de délivrance. Espérons qu'elle s'endormit bientôt du sommeil du juste. Le lendemain, ce ne fut pas sans une légère émotion de crainte que tante Judith entra chez son beau-frère. S'il s'était aperçu de quelque chose. Le vieillard s'appuyait dans son fauteuil d'un air langui. Les yeux à demi clos, la tête renversée en arrière sur le coussin, il ne sembla pas remarquer l'entrée de Madame Fèvre. « Bonjour, David » dit-elle en élevant un peu la voix. Mais, subitement alarmée par l'apparence insensible du vieillard, et prit sa main, qui pendait sans force le long du bras du fauteuil. Le pouls, quoique faible, battait régulièrement. La peau était tiède et souple. Madame Fèvre respira, elle venait d'avoir une belle peur. « David, David » répéta-t-elle, « cher frère, qu'avez-vous ? » Une moiteur froide perlait sur le front ridé du vieillard, un cercle plombé entourait ses yeux, et, sous les paupières entr'ouvertes, la prunelle était voilée comme par l'ombre de la mort. « Miséricorde ! Qu'allons-nous faire ? » s'écria Madame Fèvre avec désespoir. Car une formule légale bien connue résonnait à ses oreilles avec un funèbre écho, décédé sans testament. Ouvrant précipitamment la fenêtre, elle appela du geste un enfant qui jouait sur le trottoir. « Chez le docteur, vite, et qu'il vienne immédiatement ! 20 centimes pour toi si tu le ramènes !» Puis elle revint à son malade, lui frappa dans les mains, lui bassina les tempes avec de l'eau froide, lui fit respirer du vinaigre, jusqu'à ce qu'un souffle de vie passât enfin sur ce visage immobile et rigide. Un grand soupir souleva la poitrine du vieillard, le regard se ranima dans ses yeux. « Qu'y a-t-il, Judith ? » demanda-t-il faiblement. « Il y a que vous venez de me faire une peur affreuse. Vous ne souffliez plus. Je vous ai cru quasi mort pendant 5 minutes. » Madame Fèvre avait l'air de considérer cet accident comme une offense personnelle et un mauvais tour que lui jouait son beau-frère. « Ah, je me rappelle, » murmura le vieillard, « j'avais voulu m'approcher de la fenêtre, mais je me suis senti tout à coup très faible, et comme si le plancher flottait sous mes pieds. Déjà cette nuit, j'avais eu quelque chose de pareil. Et vous ne m'avez pas appelé ?»« Je crois que si, mais je n'ai pas eu la force de me faire entendre. » Et le vieillard, fatigué de parler, laissa retomber sa tête souffrante contre le dossier du fauteuil. Un quart d'heure plus tard, le docteur entrait. Il écouta d'un air impénétrable le récit de l'accident, prononça quelques-uns de ces mots mystérieux qui donnent aux patients la satisfaction de penser qu'on connaît au moins le nom de sa maladie, si ce n'est la façon de la guérir. Puis il prescrivit le repos, un régime fortifiant, l'absence de toute émotion et une potion quelconque qu'il alla préparer lui-même, car il n'y avait pas de pharmacien dans le village. Madame Fèvre accompagna le docteur jusqu'au corridor. « Est-il bien malade ? » demanda-t-elle d'une voix un peu émue. « À son âge, toute indisposition est grave, » répondit le docteur. « Quelle idée aussi, à 70 ans, de changer complètement sa façon de vivre et son milieu. Et cela dans cette saison de brouillards et de fièvres que les jeunes eux-mêmes ont de la peine à supporter. Auprès Berthoud, M. Dumont aurait pu vivre encore 10 ans. Mais ce changement subit a dérangé tout l'équilibre de sa santé. Et puis, dites-moi, n'a-t-il pas eu dernièrement quelque émotion, un chagrin ou une vive irritation, par exemple ?» « Peut-être, » répondit Madame Fèvre. « Je crois qu'hier au soir, il a eu une petite contrariété. » Puis, ne se souciant pas d'en dire davantage, elle se hâta de saluer le docteur. Mais à peine rentrée dans sa cuisine, elle s'arrêta. Quelque chose comme une secrète terreur passait sur son visage. « Auprès Berthoud, il aurait pu vivre encore 10 ans. » murmura-t-elle en étendant les mains comme pour chasser une pensée importune. « Je ne lui ai pourtant point fait de mal. Point fait de mal » répéta-t-elle avec vivacité. Et, des yeux, elle semblait chercher autour d'elle quelque être invisible pour le prendre à témoin de son innocence. Chose singulière, sur le point d'arriver au but, Madame Fèvre reculait, prise d'incertitude, de remords, qui sait. Jusqu'ici, elle avait filé sa trame d'une main inexorable autant qu'habile, et maintenant, elle s'effrayait de son propre ouvrage. Ce beau-frère, après tout, c'était son seul ami. Il lui avait toujours été secourable. Allait-il donc mourir ainsi chez elle, tout à coup, presque sans maladie, comme si un souffle meurtrier l'eût touché? Qu'en dirait-on dans le village? Et Julie? Et Julien? En cet instant, la faible voix du vieillard se fit entendre dans la chambre. « Judith ! Judith ! » !»« Je viens !» fit précipitamment Madame Fèvre en passant la main sur son front et ses yeux comme pour en éloigner la pénible contraction qu'elle y sentait. Puis elle ouvrit la porte. « Vous sentez-vous un peu mieux maintenant, beau-frère ? » dit-elle comme le vieillard tournait la tête de son côté et l'appelait du geste auprès de lui. « Vous avez causé avec le docteur, que vous a-t-il dit ? » fit-il à demi-voix. « Pas grand-chose, vous serez remis dans quelques jours si vous voulez seulement prendre du repos et ne pas vous tracasser l'esprit. C'est la tête qui est affaiblie. »« Très affaiblie, je le sens bien, » murmura le malade. « J'ai de la peine à y penser. Toute la nuit, j'ai vu Julien devant moi. Il me parlait, mais je ne pouvais comprendre ce qu'il me disait. Et je pensais... « C'est comme dans la tour de Babel, quand les hommes ne s'entendaient plus les uns les autres. Cela m'a beaucoup fatigué. » Il appuyait en même temps sa tête sur le coussin, avec un air de profonde lassitude. Au bout d'un moment, il reprit. « Judith, quand est-ce que Julie a été ici pour la dernière fois ?»« Je ne me rappelle pas bien, David. Il y a longtemps, peut-être une semaine. » Il y avait 4 jours. Madame Fèvre avait courte mémoire. « Voulez-vous que je lui fasse dire quelque chose ? » poursuivit-elle. « Après ce qui s'est passé hier avec Julien, Elle sera fâchée sans doute et ne reviendra pas de sitôt. » Hier, répéta l'oncle, était-ce hier? Il me semble qu'il s'est passé beaucoup de temps depuis lors. Ai-je dit à Julien de ne plus revenir, Judith? À moins de me faire des excuses, il ne rentrera pas ici, s'écria Madame Fèvre d'un ton irrité. Sa rancune lui revenait comme un flot de bile. Bien, dit l'oncle, à qui la pensée même d'une discussion semblait pénible. Voudriez-vous fermer les volets, belle-sœur? Je crois que je vais dormir. Il s'assoupit bientôt, en effet, et son sommeil dura longtemps. Sommeil agité, entrecoupé de soupirs qui ressemblaient à des plaintes. Cependant, lorsque dans l'après-midi l'oncle s'éveilla, il se trouva mieux, la tête moins lourde, l'esprit plus clair. « Vous ne direz rien à Julie de mon indisposition, ce serait l'inquiéter inutilement, » dit-il à Madame Fèvre, qui se tenait près de lui, attentive à tous ses mouvements, prévenant ses moindres désirs, comme la plus vigilante des gardes-malades. Il y avait pour elle une satisfaction étrange dans ce rôle de diaconesse, quelque chose comme le soulagement d'une expiation, d'une œuvre méritoire, qui serait inscrite à son actif pour contrebalancer un passif terriblement lourd. Mais laquelle de nos actions n'a deux faces? Tante Judith, s'effrayant de son œuvre, la continuait cependant en s'imaginant l'expier. Et, pendant la longue nuit qu'elle passa tout entière au chevet du vieillard, elle se félicitait d'effacer par son dévouement présent le souvenir de l'ancienne sollicitude de Julie. La figure de sa nièce hantait les rêves confus du malade. Il demanda plusieurs fois, avec une légère impatience, si elle ne viendrait pas bientôt. Vers le matin, il se rappela qu'il avait défendu lui-même qu'on la fît chercher. « Mais elle viendra sûrement aujourd'hui, » ajouta-t-il. « Il y a si longtemps que je ne l'ai vue. » Cependant, la journée se passa tout entière sans qu'on aperçût Julie. Le fait est que le procédé de son oncle à l'égard de Julien l'avait vivement blessé. Le jeune homme était venu le matin même chez sa fiancée et lui avait raconté la scène de la veille. Il ne pouvait s'expliquer l'amertume des paroles du vieillard. Julie y voyait le résultat des manœuvres souterraines de tante Judith, mais elle s'irritait de l'aveuglement de son oncle. « Je ferai mieux de n'y pas aller aujourd'hui, » dit-elle à Julien. « Je ne pourrai pas retenir ma langue. »« Ah, mon ami, nous étions si heureux il y a 6 mois. Comment les choses ont-elles pu changer à ce point? Si encore je savais ce que l'oncle a contre nous, nous arriverions à nous entendre. Mais je ne trouve plus le chemin de son cœur. Il me semble que je vais en tâtonnant le long d'une grande muraille noire qui n'a pas de porte. » « Mais laissons cela, Julien, et parlons un peu de vos répétitions. Est-ce que cela va bien? Sauras-tu ton rôle, au moins ?» Il faut dire que la société Le Zèle préparait pour la semaine suivante une soirée dramatique et musicale. « Il n'est pas difficile, mon rôle, » dit Julien en riant. « J'entre sur scène, je salue et je remets une lettre dont on m'a chargé. Laisse-moi voir comment tu fais. Ah, mais ce n'est pas cela du tout !» s'écria-t-elle lorsque Julien, obéissant à son désir, s'avança tout d'une pièce comme la statue du commandeur et tendit une feuille de papier pliée en quatre avec un geste aussi tragique que si c'eût été son arrêt de mort. « Oh, Julien, on dirait que tu es de bois !» continua la jeune fille qui riait malgré elle. « Arrondis donc un peu le bras pour ôter ton... que tu es raide !»« Je ne peux pas m'en empêcher !» murmura Julien décontenancé. On croira peut-être que c'est dans l'esprit du rôle et que je le fais exprès. Pas du tout. On dira que Julie Dumont aurait bien pu te stiler un peu. Tu sais, comme on ne se voit pas soi-même, il faut que quelqu'un vous critique. Allons, Julien, recommence. Ne me regarde pas si fixement. On dirait que tu me vises pour me lancer ton chapeau au milieu de la figure. Puis, ne le remets pas sur ta tête avec tant de précaution, comme s'il était plein de pommes et que tu craignisses de les laisser rouler. Je ferai comme ceci, moi. » Et Julie, prenant au crochet le chapeau d'un de ses jeunes frères, se mit à saluer de droite et de gauche un public imaginaire. Julien, saisi d'émulation, se campa devant elle pour faire le même exercice et, de se voir ainsi, sérieux comme s'ils exécutaient la charge en 12 temps, finit par leur donner le fou rire. « Assez !» s'écria Julie en se laissant tomber sur une chaise. Mais le jeune homme continua ses salamalecs d'un air imperturbable. En cet instant, une ombre passa devant la fenêtre et, tôt après, quelqu'un heurtait à la porte. « Entrez !» dit Julie en s'efforçant de retrouver son sérieux. C'était la grosse dame blanche qui partait pour le village et venait voir si Julie n'aurait pas à lui donner quelques commissions. « Merci, dit la jeune fille, vous êtes bien obligeante. Voici les bas que j'ai retrouvés ce matin au fond d'un tiroir et qui appartiennent à mon oncle. Vous me rendriez service en les lui portant. » Il n'était plus question maintenant de charger Julien de ses messages, puisque la porte de Madame Fèvre lui était interdite. La voisine fourra donc le petit paquet dans son panier et se mit en route. À vrai dire, elle n'était pas fâchée d'avoir un prétexte pour entrer chez l'oncle David. Le mystère de son départ précipité, les demi-mots qui échappaient de temps en temps à Julie et la rancune évidente qu'elle nourrissait contre tante Julie intriguaient vivement la bonne dame. Dans les affaires de ce monde, la curiosité joue un très grand rôle. Madame Blanc jouissait en outre d'une particularité qui favorisait ses penchants sociables et communicatifs. Elle avait toujours l'air essoufflé. Pour avoir monté deux étages, elle tombait chez les gens dans un tel état de suffocation que la simple charité chrétienne ordonnait de lui offrir une chaise et un verre d'eau sucrée. Rien ne vous dispose mieux à une causerie confidentielle où le cher prochain a sa large part, cela va sans dire. En remuant tout doucement la cuillère pour fondre le sucre, on fait échange d'informations, on suppose, on commente. On apprend avec un vif intérêt que le locataire du premier a mangé du veau rôti à dîner et que demain, on accommodera le reste en sauce. En voyant entrer son ancienne voisine, l'oncle David demanda aussitôt des nouvelles de Julie. « Il y a longtemps que je ne l'ai vue, soupira-t-il de cet air languissant qui était maintenant son expression ordinaire. Julie, elle se porte comme un charme, et c'était vive la joie chez elle ce matin quand j'y suis entrée. Elle riait comme une folle de son fiancé qui faisait je ne sais quelle singerie avec un chapeau. Il ne broyait pas du noir entre les deux, je vous assure. » Madame Fèvre lançait à son beau-frère des regards significatifs. « Il s'inquiète bien de vous, vraiment, avait-elle l'air de dire. Vous chassez Julien, il se console en allant le raconter à Julie et ils rient ensemble du vieil oncle qui se fâche. » Le vieillard détourna la tête et n'ouvrit plus la bouche jusqu'au départ de la visiteuse. Mais lorsque tante Judith, après avoir accompagné Madame Blanc jusqu'à l'escalier, rentra dans la chambre, elle trouva son beau-frère, marchant à grands pas malgré sa faiblesse et d'un air très agité. « Judith, Judith !» s'écria-t-il avec angoisse. « Ils m'abandonnent tous, ils ne m'aiment plus. Ils voient mon chagrin, mon ennui, que je suis malade, que je partirai bientôt, et ils ont le cœur de rire. Oh, mes enfants, mes enfants !» Un long silence suivit cette explosion de douleur. Le vieillard s'était laissé retomber dans son fauteuil et couvrait son visage de ses mains. Madame Fèvre se tenait à distance, troublée comme une coupable. Devant l'affliction de Julie, devant l'irritation de Julien, une voix lui avait crié « Voilà ton œuvre !» Mais elle s'était raidie. Maintenant, en face de ce vieillard accablé de chagrin, la même voix lui disait encore « Voilà ton œuvre !» Et cette fois-ci, Madame Fèvre tremblait. Il était encore temps, tout pouvait se réparer. Mais un char lancé sur une pente rapide s'arrête-t-il de lui-même ? Il y a dans le mal une fatalité qui entraîne. Le maudit engrenage saisit et broie la main qui lui a donné l'impulsion si elle tente de l'arrêter. L'excitation douloureuse qui avait pour un moment ranimé le vieillard fit bientôt place à un profond abattement, à une sorte de somnolence. Jusqu'au milieu de l'après-midi, Madame Fèvre n'échangea pas un mot avec son beau-frère. Elle vaqua machinalement aux occupations du ménage, mais ses yeux et ses pensées étaient irrésistiblement attirés par cette pâle figure, par ce corps langui, immobile comme si la mort l'eût touché. Assise à quelque distance, car une crainte indéfinissable l'empêchait de s'approcher, inactive, les mains sur ses genoux, elle passa de longues heures à rouler dans son esprit une phrase qui y revenait sans cesse comme un refrain accusateur, c'était l'arrêt du médecin. Auprès Berthoud, il eût pu vivre encore 10 ans. Quatre heures venaient de sonner quand le vieillard fit un mouvement et ouvrit les yeux. « Judith » murmura-t-il faiblement. Elle s'approcha. « Je m'en vais, n'est-ce pas ? » dit-il. Madame Fèvre eut un soubresaut. « Non, David, non ! » s'écria-t-elle d'une voix suppliante. « Si vous partiez, qu'est-ce que je deviendrais ?» Une terreur intense se lisait sur son visage bouleversé. « Pauvre sœur !» murmura le vieillard. Et cette expression affectueuse parut augmenter l'angoisse de Madame Fèvre. « Je vous ai bien soignée, dit-elle. Si vous êtes malade, ce n'est pas ma faute. J'aurais voulu vous faire vivre encore 10 ans. David, je vais envoyer chercher le docteur. Il doit avoir un remède, il faut qu'il y en ait un. » « Non, dit l'oncle tranquillement, contre la vieillesse et le chagrin, il n'y en a pas. J'ai trop souffert ces derniers temps, Judith. » Puis il se tut de nouveau et retomba bientôt dans cet assoupissement dont il ne se tirait plus que par un effort. Cependant, une pensée opiniâtre semblait le préoccuper jusque dans son sommeil. Il murmura plusieurs fois des paroles confuses, puis tout à coup, passant la main sur son front, il dit à demi-voix « J'oubliais. J'oubliais. Mon testament. » Madame Fèvre devint livide d'émotion. Ce mot, elle l'attendait, elle l'épiait depuis des mois. Il devait être pour elle l'aurore de la fortune. Lugubre aurore. « Un testament ? » fit-elle en se penchant vers son beau-frère. « Qu'avez-vous besoin de faire un testament ? Votre bien revient de droit à vos héritiers naturels, Julie et vos autres neveux. » L'esprit engourdi du pauvre vieillard parut ne pas saisir tout d'abord le sens de ces mots. « De droit, » répéta-t-il, « de droit. » Mais un instant après, comme si un éclair avait traversé son intelligence, il se redressa et dit d'un ton ferme « Non, je ne récompenserai pas des ingrats. Judith, vous étiez la femme de mon frère, vous m'avez soignée, vous aurez tout. » Et, rassemblant dans un suprême effort l'énergie défaillante de son corps et de son esprit, il demanda une plume et du papier pour écrire son testament. Mais tout à coup, un scrupule lui vint. « À l'égard des autres enfants, ce n'est pas juste, dit-il. Les pauvres petits seront-ils punis du mal que leur sœur m'a fait ?» On eût dit que le nom de Julie ne pouvait passer sur ses lèvres. Toute l'âpreté de Judith Fèvre se réveilla soudain. Cet argent qu'elle croyait déjà voir briller dans ses mains, lui échapperait-il encore ? « David, dit-elle sans prendre la peine de déguiser l'ardeur étrange de sa voix, il y aurait moyen de tout arranger. Je m'engagerai à laisser après moi votre fortune à vos neveux. » « Bien, dit le vieillard déjà fatigué, je vais écrire cela. » Ce fut une œuvre lente et laborieuse que la composition de ce testament. Madame Fèvre, penchée vers la table, surveillait des yeux la plume qui s'égarait souvent. Enfin, la date, puis la signature furent tracées. « C'est la dernière fois que j'écris mon nom, » murmura le vieillard en se laissant retomber, épuisé, dans son fauteuil. « Maintenant, Judith, je vais dormir. » Et, comme si cet acte définitif eût soulagé son esprit, il s'endormit, en effet, aussi tranquille qu'un enfant. « Emportez maintenant ce papier qui fait votre fortune, Madame Fèvre. Lisez et relisez ces mots d'or pour les graver dans votre mémoire. Héritière universelle, cela sonne bien, tante Judith. Réjouissez-vous donc, au lieu de rester là, sombre et les yeux fixés à terre. »